Sages Usages numéro 2. Salut Jimmy.
Salut Yannick.
Ah, ça fait plaisir de te retrouver.
Ben ouais.
Avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de la mort.
Ouais.
Ok, cool. Tu vas nous en parler aujourd'hui.
Mais grave.
Parfait. Est-ce que tu veux parler un peu de ce qui s'est passé avant la mort?
Avant
de l'épisode de la première fois?
Ouais, t'as des retours à nous faire?
Ouais. Y a des gens qui ont dit, je sais pas ce que c'est l'ASMR. Je n'en fais pas.
On balance personne.
L'ASMR, globalement, ce sont des gens qui parlent tout doucement dans un micro, ou qui déballent des choses, ou qui écrivent des choses. En tout cas, des gens qui vont titiller une partie de votre cerveau par le biais de petits sons, qui vont être propices à la relaxation et ou à la détente.
Ouais, ou ça énerve très très fort les gens. Ça
oui,
dépend.
C'est, je pense, comme... plein de techniques. Soit ça passe, soit ça passe pas.
Il y en a que ça en fout. Et ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response.
Ok. C'est des méridiens qui répondent de manière autonome sensoriellement.
Waouh. Voilà.
Donc, c'est la dernière fois que je disais ASMR pour aujourd'hui. On en reparlera peut-être une autre fois. On nous a dit ça, on nous a dit qu'on était content de nous écouter. Nous, on est toujours content de s'amuser et on est content de se retrouver.
Yes.
Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Parler de, allez, de l'actu,
surprise,
un outil,
surprise
et des surprises.
Surprise.
Oh, Jimmy.
Oui.
J'ai une surprise pour toi.
Oui.
Quand on a parlé d'I Love PDF la dernière fois, j'ai reçu un message d'une bonne amie qui m'a dit « Dis donc, I Love PDF, moi je connais bien ça.
»
Et elle m'a parlé d'un autre outil.
Ah, cool.
Ouais. Ça s'appelle tools.pdf24.org. C'est un super outil. Et ça fait un mois et demi que je l'ai sous le coude en me disant « Je ne le dis pas à Jimmy. » Allez, go. De quoi tu voulais me parler?
Alors, en actu.
Vas-y, c'est parti.
En actu, j'ai vu que bientôt, il allait avoir le nouveau concert de Whitney Houston. Cool.
La morte. la chanteuse morte.
Oui, un peu décédée en 2012, effectivement.
2012 déjà.
Ouais.
Punaise.
Ouais, et je te parle pas de quand est mort Michael.
C'était il y a 2 ans.
Oui, bien sûr. Et oui, Whitney Houston revient en scène. Et du coup, bah, en hologramme.
Ah, facile. Et ouais.
Ah, facile. Hein. Et du coup, ça m'a vachement interpellé. Et je trouve ça hyper intéressant ce qui se passe autour des hologrammes. Ça fait un moment que c'est... Que c'est dans l'air du temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc Whitney Houston va monter sur scène en hologramme avec de vrais danseurs, de vrais musiciens, des vrais repiquages de sa voix.
Des nouvelles chansons?
Non, pas de nouvelles chansons.
Dommage.
Enfin, pas à ma connaissance.
Quoique.
Ce serait possible, hein,
oui,
il suffit.
Possible.
Bon, je veux dire, Bob Marley et Elvis sortent des nouveaux albums tous les 2 ans, donc... Mais c'est vrai.
C'est vrai.
Mais oui. Prince a 20 ans d'enregistrement d'avance.
Ah oui, parce que lui, il a été prévoyant.
Et lui, il a été prévoyant.
Ouais. Petit, mais prévoyant.
Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est technologiquement et philosophiquement, qu'est-ce qui se passe? Technologiquement, c'est dingue. C'est vraiment une prouesse. Et il y a eu plein de cas comme ça qui se sont passés. Alors, on va penser tout de suite à... au concert incroyable de Mélenchon. Hein.
C'est exactement ça. Quand tu m'as dit. On va penser tout de suite, je t'ai acheté Mélenchon.
Mais oui.
Mais oui.
Bon, c'est pas des concerts, c'est des meetings. Mais même technologie. C'est-à-dire qu'en étant à un endroit, il est dans plusieurs endroits à la fois, en ayant cette impression de présence.
Okay.
Et ça fonctionne plutôt pas mal. On voit encore qu'il y a des écrans, etc. Qu'il y a... C'est pas une réalité physique, mais il n'empêche qu'il se passe quelque chose. Après, tout le truc, c'est l'interaction publique. Par exemple, pour Whitney Houston, tout doit être millimétré.
Ouais.
C'est-à-dire que les musiciens jouent au millimètre, puisque c'est une bande vidéo qui passe. Donc, ça pose des questions. Mais en fait, il y en a des tonnes et des tonnes d'exemples comme ça. Je peux vous en citer plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Là, il y a ABBA qui tourne.
Ouais.
Bon, alors, ils sont beaucoup moins morts, ABBA.
Ils sont beaucoup plus vieux.
Et mais ils sont beaucoup plus vieux. Ils sont autour de 70 ans, là, ABBA.
Oh, ça va.
Et ils tournent, mais comme quand ils avaient 20 ans.
Avec les mêmes chansons.
Les mêmes chansons.
Les mêmes voix.
Et en fait, là, le truc, c'est ils ont fait rechanter ABBA.
Ouais.
Ils ont refait des captures d'ABBA aujourd'hui. Ils les ont rajeunies numériquement. Et ils projettent ça, donc toujours avec un groupe, etc. Et donc, ABBA est sur scène, mais jeune.
Waouh.
Donc, voilà, ils font des trucs ouais, comme ça qui sont absolument dingues, quoi. Il y a quelques années, Tupac... qui était tout aussi décédé, est venu faire un featuring à Coachella.
Okay.
Donc, en plein milieu de concert, boum, t'as Tupac qui arrive, qui a posé un morceau. Michael, en 2014. Alors, il est mort quand, Michael?
2009.
Bien. Ouais, c'est dingue. Et donc, voilà, il y a ça. Il y a eu qui Maria Callas. Il y a eu... Ils ont fait une tournée, pareil, de souvenirs avec Claude François, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel. Pareil.
Sacha Distel,
il est mort aussi.
Ah ouais?
Ah oui, oui. C'est sympa ce qu'on a à raconter. Donc voilà, ça pose des vraies questions. Alors technologiquement, moi je trouve ça fascinant, je trouve ça absolument dingue de revivre des émotions avec un artiste que t'as aimé.
Ouais.
De pouvoir le retrouver sur scène et vivre l'émotion malgré tout de la scène parce qu'il y a des vrais musiciens, t'es au milieu de plein de gens qui ont la même ferveur, ça c'est intéressant.
Ok.
Ça pose d'autres questions.
Ça veut dire quand même que je réfléchis, hein.
Ouais.
Parce que du coup, quand tu me dis je vais dans un concert, je vais voir quelqu'un qui malheureusement est décédé, on repart sur Whitney Houston. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe dans mon cerveau pour que je profite de ce moment, ce qui doit être facilité par le fait de la foule, tout ça. Hein.
Ouais, je pense que tu lâches assez vite.
Mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui se passe pour dire « Allez, c'est la fête ».
Ouais.
Ok.
La dernière fois, tu cherchais une expression. La suspension d'incrédulité.
J'étais encore en train de la chercher.
Ça m'a trotté dans la tête. Là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que tu sais que tu vas voir quelqu'un qui n'est plus là.
Ouais.
Mais en même temps, quand tu écoutes un CD, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, on regarde en permanence des vidéos. C'est tout la condition de l'artiste, c'est ça, c'est de laisser une trace.
Ouais.
Il n'y a pas longtemps, je suis allé à un concert hommage à une artiste que j'adore, la chanteuse de Paris Combo. Bon, il y avait d'autres chanteurs qui chantaient ses morceaux.
Ouais.
Tu revis quand même l'émotion de tout ce qu'elle a laissé, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Donc là, on y va. Après, c'est comment on fait du business. Là, je mets à part le concert hommage dont je viens de parler. Hein, mais tu ressors un album, mais c'est, voilà, je parlais tout à l'heure de Bob Marley.
Ouais.
On ressort des albums de Bob Marley, on fait des remixes, on a trouvé un morceau inédit, donc on sort un album avec un morceau inédit. Bon, on fait du business.
Oui,
sur,
après, il y a tout le côté business qui coup. Fait que...
Donc si ça, c'est éthiquement, plus, c'est toujours la question.
Ouais. Si en plus, c'est hologramme, si c'est holographique, comme Jean-Luc Mélenchon, il n'y a rien qui m'empêche de faire un concert à 10 endroits différents en même temps.
Bien sûr.
Ok.
Donc,
il faut les musiciens.
Ça ouvre... Il faut quoi?
Les musiciens.
Oui, c'est pas
eux,
grave.
Ils sont pas à 10 endroits.
C'est comme des groupes comme Voca People ou le Blue Man Group qui font des tournées partout dans le monde en même temps. C'est-à-dire que vu que ce sont des gens, Voca People, ils sont tout en blanc, on dirait des tic-tac qui chantent, ou le Blue Man Group, ils sont tout en bleu, en fait, le concept est déclinable. Tu crées plusieurs équipes. tu vas voir le Blue Man Group, tu vas pas voir quelqu'un, tu vas pas voir Michael en concert, tu vois ce que je veux dire.
Ah, donc, okay. Du coup, je savais même pas qu'ils faisaient ça.
Vocab People, il y a plusieurs.
Les gars, ils sont 10, tranquille, c'est toujours les mêmes que tu vois.
Non.
Ah.
Donc ça, c'est faisable en fait. Ça dépend de ce que tu vas chercher. Soit tu vas voir une personne, soit tu vas voir un concept, tu vois, un concept artistique ou des morceaux.
T'as vu que mon cerveau vient de dire, tu peux pas te lier d'amitié.
Ah, ouais, c'est intéressant. mais ça pose plein de choses, plein de questions par rapport à ça. Dans l'éthique, il y a qu'est-ce que tu fais dire, tu vois. Tu sais, les artistes qui ne voulaient pas, c'est tout ce qui se passe autour de Gaston Lagaffe aujourd'hui. Ouais. Je pars du coq à l'âne, mais c'est la même idée, c'est-à-dire que Franquin ne voulait pas qu'on reprenne Gaston après sa mort.
Ouais.
Et là, je crois que c'est Dargaud, je suis plus sûr. Les maisons d'édition décident de ressortir Gaston Lagaffe par un autre dessinateur.
Ah ouais.
C'est le même Gaston, le trait est bien fait, mais ça pose problème.
Ok, c'est le même problème que pour Gaston, quand tu m'as parlé de Gaston,
ouais.
Le premier truc qui m'est venu, c'est le film.
Ouais.
Et je sais qu'il y avait eu un problème avec cette histoire de film de Gaston Lagaffe. Pas d'une grande qualité non plus, mais finalement, ils n'étaient pas trop insatisfaits, en fait. C'est juste une question d'éthique, en fait, rapport à ce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit réalisé. Et effectivement, on retrouve ça pas mal dans la BD. Ouais.
C'est le respect de l'artiste et de la volonté de l'artiste. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais après, il y a les ayants droit hein, qui donnent leur aval ou pas.
Du coup, ça me fait penser à ce qu'on a forcément évoqué sur les hologrammes avant de démarrer.
Ouais.
L'Hôtel du Temps d'Ardisson.
Ah oui, très bien. Ouais.
Il y a cette question dans l'Hôtel du Temps que je n'ai pas regardé. Alors, soyons clairs, hein, je ne sais même pas sur quelle chaîne c'est. Je sais qu'il y avait cette question de est-ce que dans l'interview qui est faite de la personne qui est décédée, bon, la techno, c'est l'hologramme, mais est-ce qu'on peut s'autoriser à lui faire dire des choses qu'elle n'aurait pas dites ? Parce que faire chanter Whitney Houston, c'est cool. Elle chante, Whitney Houston chante. Elle chante ses chansons. Mais si derrière, on interviewe Whitney Houston et qu'on lui demande comment elle va, comment ça se passe au paradis, qui elle a vu, comment elle passe ses journées, ce qu'elle pense de la politique actuelle,
ouais.
Là, c'est autre chose. C'est du coup qu'on est en train de lui prêter un discours qu'elle n'aurait jamais eu.
Bah, complètement.
Et c'est effectivement ces questions-là d'éthique, elles sont, j'allais dire importantes, mais bon, on va les mettre de côté pour l'instant, mais elles arrivent forcément, même si c'est de manière sous-jacente, en fait, dans la tête. Si on réfléchit un peu, on se dit, finalement, qu'est-ce que je vois, moi, en face, et quelle réalité je comprends ?
Bah, tu te rapproches... Oui, complètement. Tu te rapproches du deepfake.
J'étais en train d'y penser.
Ah oui, cette problématique-là, c'est... Ouais. Après, c'est encore une fois une question d'éthique. Ardisson, il a joyeusement pompé le concept sur ce que fait Christine Gonzalez dans Par Jupiter, sur France Inter.
Ok.
Elle est sur une pastille qui dure 5 minutes,
ouais.
Où elle interviewe des morts, mais c'est vraiment posé comme ça. C'est-à-dire, je fais un appel directement dans l'au-delà et je discute avec des morts. Et en fait, elle parle d'archives, ouais. D'archives de France Inter, de longues interviews qui ont été faites. Elle découpe tout ça et elle pose des questions décalées par rapport à ça. Et du coup, ça crée une vraie interaction. C'est super rigolo à écouter. C'est très sympa. Et on est dans un cadre purement humoristique. Donc, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ouais. Après, ça dépend de qui reçoit. Mais globalement, le cadre est posé. Le truc d'Ardisson, il était dans un truc plus sérieux. Et du coup, je trouve ça un peu plus limite.
Ouais, c'est un peu plus limite. Ouais. Puisque du coup, on est sur des choses qui sont plus...
Et plus malaisant.
Qu'on va plus attribuer à la personne. Si demain... mais je sais pas si c'était écrit à l'écran, par exemple, que ceci ne sont pas les propos réels, ou peut-être qu'il faudrait le préciser en fait, dire que c'est un hologramme ou que ce ne sont pas les propos réels, parce que aujourd'hui on le sait, c'est dans notre actualité, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans,
ouais.
quand ça sera dans les bases de l'INA, que la vidéo elle tournera sur un réseau social, Facebook ou autre, et que les gens n'iront pas lire les commentaires en dessous.
Ouais, ça passera pour une information ouais. et plus pour un divertissement. Ou,
Bon, d'un autre côté, on y est déjà aujourd'hui. Hein. pour plein d'autres sujets, c'est vrai que si on prend pas la peine de regarder ce qui entoure en fait le contenu qui est publié, finalement, on n'a pas réellement d'informations sur le contexte en fait. On se base juste sur tiens, qu'est-ce que j'ai vu. Il a dit ça, c'est le Gorafi quoi.
Ouais. ouais. Non, mais ça peut être ça, mais ouais. Ces techniques se développent de plus en plus au cinéma. Léa qui revient.
Oui, c'est ça.
Après le décès ouais. de Carrie Fisher.
Ouais.
Ben, ça pose question, quoi. C'est, ouais. ben, c'est bien par rapport au film, au contexte. C'est intéressant de la revoir ou de la voir jeune, etc. Bon, très bien.
Ouais, ça m'a fait penser à ça, au rajeunissement des persos.
Ouais.
Je crois qu'ils l'ont fait avec Luc. Ils ont dû le faire avec tout le monde.
Mais en fait, maintenant, ça se fait dans quasiment ouais. tous les films. Quand t'as un flashback, ils prennent de moins en moins la peine de prendre un autre acteur qui ressemble. Ouais. C'est un rajeunissement, de l'acteur lui-même. Et les techniques commencent à devenir carrément crédibles.
Ouais.
Ça se voit de moins en moins. Mais là, l'acteur est toujours là. Et c'est vraiment pour la cause du scénario. Faire revenir quelqu'un qui n'est plus là est plus délicat.
Ouais. Bah, c'est plus délicat. Qu'est-ce que tu veux dire par plus délicat ? Enfin, moi, finalement, je me dis, c'est presque plus simple. Bon, on signe avec des ayants droit, ouais, on explique le truc. L'argent va dans la poche des ayants droit. Mais quelque part, oui, ça pose un problème d'éthique par rapport à la mémoire de la personne. Mais ce problème d'éthique, il est lié au fait que on va potentiellement se dire, bah, y a quoi derrière ? C'est-à-dire que si derrière la porte qu'on passe quand on meurt, il y a quelqu'un qui attend et qui a un jugement, il y a quelqu'un qui se dit « c'est abusé !» tu vois. Mais d'un autre côté, si derrière il n'y a rien, bon bah on le fait. Par contre, cette technique d'hologramme, si on la réfléchit dans l'optique du rajeunissement des acteurs et qui sont là, bon ok, ils ont signé, d'accord. Mais quand on parle du deepfake,
ouais.
je le développe pas trop, mais et qu'on se dit tiens, la tête de Jimmy, je vais la prendre et en visioconférence, je vais aller dire des trucs que Jimmy n'aurait jamais dit, ce qui est le cas en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sociétés dans des pays X ou Y qui se sont structurées comme ça, des groupes de personnes qui vont, j'ai un très bon podcast là-dessus, je te le passerai, qui vont hameçonner des gens, faire du live avec eux, entretenir des relations pour leur soutirer de l'argent. En faisant de la visioconférence, c'est-à-dire que c'est même pas j'ai posté une vidéo, c'est je te parle. Et du coup, tu te dis waouh, là, au niveau de l'éthique, c'est bon. Après, c'est de l'arnaque, hein, mais c'est quand même plus chaud, je trouve. Que j'ai du respect pour les morts, hein, mais je me dis finalement, si les gens qui sont derrière, tu sais, ça nous ramène à une fois que t'es parti, t'as plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, on te dit alors qui va gérer ta page Pierre Tombal, parce que ça sera plus à toi, hein, puisque t'es plus aux commandes. Qui va. Bruce Willis avait posé la question à Apple il y a quelques années, certainement vers 2009-2010, tu vois, où il disait moi, quand je vais mourir, je veux léguer toute ma musique à mes enfants. Et Apple avait dit bah, la musique, c'est associé à un compte. Donc, C'est
pas accessible. Ouais.
C'est pas accessible.
Uh-huh.
Et du coup, il dit, bah oui, mais moi, je l'ai acheté. Donc, je sais même pas ce que ça a donné. Mais du coup, cette problématique de la mort et du numérique, ça serait bien qu'on en reparle. Moi, j'aimerais bien. Tu vois,
mais effectivement, c'est large, c'est intéressant.
Ce principe de l'hologramme, bon, en tout cas, je trouve ça cool. Si t'es fan de Whitney Houston, si t'aimes Claude François, je trouve ça cool. Après, effectivement, c'est moins cool si on est en train de te raconter des choses qui concernent pas l'artiste en lui-même, en fait. Surtout quand t'es fan, t'as une culture de l'artiste, en fait.
On est au cœur d'un... Enfin, on est sur un sujet qu'on va aborder, réaborder, réaborder non-stop, qui est la désincarnation.
Ouais. Tu n'es plus dans de la chair.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que réseaux sociaux, ben, on interagit avec plein de gens, mais on ne les voit pas, etc., etc.
Ouais.
Moi, je pense vraiment que, peu importe. En fait, tu vas à un concert, tu vois pas l'artiste, mais en fait, l'artiste, t'es jamais en contact réel avec l'artiste. Ce que tu vas vivre en vivant un concert, c'est tout ce qui se passe, c'est-à-dire l'interaction avec le public, plein de gens.
Ouais.
Ce qui va manquer, mais ça dépend des artistes que tu vas voir. Il y a des artistes, ils arrivent, ils jouent. Ils n'ont pas d'interaction avec le public. Il y en a d'autres qui sont totalement en osmose avec le public et en interaction.
Ouais.
Ça crée des niveaux différents. Je pense toujours que l'un ne va pas effacer l'autre, jamais.
Ouais, non.
Tu vois?
Ouais.
Donc, les réseaux sociaux ne vont pas empêcher qu'on voit ses amis pour boire un apéro et partager une mousse ensemble, tu vois.
Bah, regarde, il y a plein de gens qui ont fait des apéros visio.
Oui, mais on a eu ensuite besoin, ça n'a jamais remplacé le besoin de se retrouver et de faire un vrai apéro en mangeant des cacahuètes ensemble.
Quoi. Non, bah, c'est vrai que, qu'à la fin du confinement, là, Le premier
truc que tu avais envie de faire, c'était quoi?
Comme je dis souvent, c'était pas de lire des livres numériques, c'était directement d'aller retrouver tes amis, d'aller boire des bières, quoi.
Confinement, il y a eu des tonnes de ressources ouvertes, donc des tonnes de concerts accessibles gratuitement. M faisait ses petits concerts, t'étais en AFE, enfin des tonnes d'artistes ont fait des concerts, donc ça a créé plein de ressources qu'on n'aurait pas eu autrement, c'était génial.
Ouais.
Bah, j'avais qu'une envie quand même, c'était de retourner voir un vrai concert.
T'as regardé combien de concerts pendant le confinement?
J'en ai regardé quelques-uns, mais en fait, moi j'ai besoin de vivre le concert, il faut que ça transpire, tu vois.
Moi je suis pas sûr que les gens, ils aient regardé tant de concerts que ça.
Alors, au début, je pense que c'est mal, parce que justement, défouler, on était tous en panique et mon Dieu, on est coincé, on va jamais pouvoir faire ça, on n'a jamais vécu ça. Donc, on a bouffé pas mal de choses.
Ouais, après, il y avait plein de gens à contenter, mais effectivement, j'ai toujours ce sentiment que, qu'il y a un côté où on a mis beaucoup de choses à disposition, mais où finalement... On l'a pas tant exploité que ça. Parce que il manque quelque chose entre mais je sais où je viens dans ma tête parce que j'ai l'habitude de le dire comme ça. Il manque quelque chose entre ce qu'on nous a mis à disposition et ce qu'on en a fait.
Ah.
Et ça rejoint ce que je fais au boulot parce que du coup Ah oui, on m'a dit ça aussi. Ah,
tu bosses?
C'est pas ce que tu fais.
Mais moi non plus, tu fais quoi?
Voilà. Et voilà. Je donne des formations à des gens qui utilisent des ressources numériques. Je leur apprends à les utiliser. Et je leur apprends à en tirer un bénéfice par rapport à un objectif. Donc je forme des gens dans le domaine de la culture, des artisans, et ça me plaît. Mais du coup, ce dispositif qu'il y a entre la ressource et l'usager, et la personne qui va l'utiliser pour quelque chose, bah ça s'appelle de la médiation tout connement.
Mmh.
Et en fait, quand on nous a mis plein de ressources à disposition pendant le confinement, il n'y a pas eu de médiation. Quand on parle de... Il n'y a pas eu de médiation. Il y a eu de la médiation, mais certainement pas suffisamment pour certaines personnes. Quand on parle de des hologrammes, et effectivement de... comment on utilise cette technique quelque part peut-être pour faire oublier la mort.
Ok.
Et du coup, on est peut-être sur quelque chose qui est sociétal, hein, là. Tu vois, tu dis, je vais enlever la mort de ma vision, de mon plaisir. Finesse, Jimmy.
Où tu pars encore?
Je viens de penser à Cerno.
Et ah, à bah oui.
Voilà.
Oui, bah oui.
Du coup.
Faudra qu'on en parle.
Oui.
Alors, explique juste de quoi on parle parce que.
Oui, pardon, excusez-moi.
Là, on est en private.
Cerno, c'est un podcast de Julien Cerno-Bory qui traite d'une affaire particulière qui est celle de Thierry Paulin, le tueur des vieilles dames. Et c'est un podcast qui est magnifique et qui donne la parole, non pas au tueur, hein, puisqu'il n'est plus là en plus, mais qui donne la parole aux traces qu'il reste des gens qui ont été tués et aux gens qui gravitent autour de ces traces.
Voilà. C'est une contre-enquête, c'est-à-dire qu'il remonte tout le fil, mais comme ça vient, ça c'est vachement intéressant. Et Perso, ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'en fait, c'est juste une excuse pour faire parler des gens et pour rentrer dans leur vie. Et il faisait un autre podcast qui s'appelle Super Héros, qui est sublime, qui est incroyable, qui retrace la vie de certaines personnes. Et c'est vraiment son pouvoir à lui, c'est vraiment ça, de faire parler les gens.
Ouais, de prendre du temps avec les gens et de parler avec eux. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais.
Et effectivement, de redonner une voix et une existence aux victimes qui ne sont que des noms sur une liste, quoi.
Exactement. Et du coup, ouais, il y a récemment deux épisodes dédiés à la mort et à justement comment celle-ci s'exprime dans nos sociétés. Et c'est marrant que ton actu de ce matin, ce soit autour de la mort et du principe d'hologramme, parce que finalement, ça ramène à ces sujets-là. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour nous quand on nous présente du contenu qui vient de quelqu'un qui n'est plus là. Et
tout est là.
Ah, ça fait tellement de choses à discuter. Suspension d'incrédulité, la mort, les hologrammes.
Bah, pour boucler, justement, on va sortir de ce truc de la mort. Parce qu'effectivement, tu pars d'une personne réelle, tu la fais revivre, bon... Hommage ou profanation, ça, chacun se fait son opinion. Je voulais parler de d'Hatsune Miku. Est-ce que tu connais ?
Mais c'est qui ça ?
Ou Miku Hatsune.
C'est qui ça ?
C'est une méga star au Japon, en Chine. Ah, mais vraiment, qui remplit des stades incroyables. Vraiment, une méga star qui a sorti plusieurs milliers de titres.
Ah, j'allais dire comme Céline Dion, mais peut-être
non,
pas.
Non, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Ok.
Tu connais ? C'est...
Non.
Non ?
Non.
Elle n'existe pas.
Si, elle existe, puisque tu m'en parles.
Elle n'existe pas en chair et en os.
Elle est désincarnée.
C'est une star virtuelle.
Ouh.
Et le phénomène est assez dingue et vachement intéressant. C'est-à-dire que ça part de... d'un logiciel créé par Yamaha pour faire de la musique, pour composer de la musique.
Excuse-moi, je tousse.
Vas-y.
C'est quand on dit Yamaha.
C'est pas grave, quand tu seras décédé, je couperai des petits morceaux de ta voix et je continuerai à faire des podcasts.
Je te fais des rires, tiens.
Et donc, ils ont développé ce logiciel et puis, en force de développement, à un moment, ils ont créé des petits avatars.
Ouais.
Pour interpréter ses morceaux. Et parmi ses avatars, Hatsune Miku, qui a des cheveux bleus turquoise, des yeux bleus aussi, qui des longues nattes, voilà, a cartonné.
Ah, donc c'est comme si ça avait été une sorte de non, c'est pas Nouvelle Star, mais il y avait plusieurs avatars et c'est elle qui a cartonné.
Ouais, mais enfin, oui, il y avait plusieurs avatars et il y a eu un truc sur elle. Et ça a marché.
Les cheveux bleus, quoi.
Voilà, ils avaient pris... Oui, puis ils avaient pris la voix d'une star de cinéma, tu vois.
OK.
Enfin, ça ressemble à... Et là, on en est à... Elle fait des concerts dans des stades qui sont absolument pleins et remplis. Donc là, on évacue... le fait de capitaliser sur quelqu'un qui est décédé ou pas, voilà. Ouais. Et là, c'est du totalement virtuel.
Ok.
Et c'est vachement intéressant, en fait, comme phénomène.
Je regarde quelle tête elle a. Ah ouais, ok. Ouais.
On mettra
les cheveux longs, hein.
Oui.
C'est ça, c'est les cheveux longs.
on mettra en lien, en description, des références. Je mettrai la bande-annonce du concert de Whitney Houston, qui est juste dingue.
Oui, t'es arrivé, tu m'as dit.
Je vous montrerai la prestation de Tupac, je vous mettrai des liens là-dessus, et du Hatsune Miku pour vous voyez ce que ça donne. C'est vachement intéressant. Okay. Mais voilà, on est de là à là. Tout à l'heure, on a discuté en amont et tu me parlais de Madonna qui a fait du virtuel avec Gorillaz. Mm-hmm. Alors Gorillaz, pas les membres physiques de Gorillaz, leurs avatars.
Oui, du
leurs
coup,
avatars dessins animés, puisque c'est une spécificité de Gorillaz. Et en fait, créativement, bah, ça ouvre des champs hyper intéressants. Hyper intéressants. Après, c'est juste où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est à l'aise ou pas à l'aise avec ça. Et là, pour moi, vraiment, c'est juste une question d'éthique. On fait ça en hommage, on fait ça en pure créativité ou on fait ça en pur business. Il y a toujours un peu des deux.
Ouais, Ouais, c'est clair. Oui. Yeah, ouais. Parce qu'il faut toujours un peu de sous quand même. Ça m'a fait penser quand tu as dit. On est entre. Est-ce que, comment tu l'as dit ? Est-ce que ça nous convient ou est-ce que ça nous convient pas ? Un truc
ouais,
comme ça.
Ouais.
Okay. Ça me fait penser à ce concept. Qu'on entend de temps en temps, bon, y a des podcasts qui en parlent des fois, ou des fois sur des blogs, hein, d'Uncanny Valley, où il y a ce, tu connais-tu l'Uncanny Valley?
Ah non.
Ouais. L'Uncanny Valley, c'est un concept qui émerge quand une représentation virtuelle d'un personnage est si réaliste que ça en devient malaisant.
Ok.
Et du coup, on est dans une sorte de zone qui fait froid dans le dos presque. Tu sais, c'est un peu ce qu'on a avec ce qu'il y a eu avec ce robot qui avait dit « je vous tuerai tous ». Quand on lui a dit quand on lui a dit sinon il se passerait quoi si on vous laissait aux commandes, bon je vous tuerais tous.
Ok.
Enfin, on arrête de lui poser des questions, elle a l'air énervée. Mais non, mais la représentation visuelle en fait quand on est à ce niveau de réalisme,
ouais.
Ça a fait émerger un concept qui est le concept de l'Uncanny Valley. On pourra en reparler une autre fois parce que c'est quelque chose qui sera intéressant à développer. Puis il y a plein d'exemples à donner très certainement. Et puis moi, ça me ferait un grand plaisir de me pencher dessus.
Ok.
Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Valley comme Valley. Uncanny. On mettra une définition dans les descriptions.
Ok.
Bah c'est chouette, ça dit donc. Je pensais pas qu'on parlerait autant des hologrammes ce matin.
Bah ça ouvre sur plein d'autres choses.
Mais carrément.
Alors c'est le concept du podcast. Hein. On prend un sujet et on dérive jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après, une fois que, que le décès est arrivé, on revient en version remixée.
Jusqu'à ce que mort s'en suive. Au niveau des outils aujourd'hui, Jimmy, de quoi je voulais te parler ?
Moi, je sais.
Toi, tu sais ?
Ouais, de quoi.
Allez, je te le parler. Dis. Je vais te parler d'un outil que beaucoup de gens utilisent et que les gens utilisent de plus en plus.
Pas
de suspense, pas de roulement de tambour, c'est Canva. Mon Dieu, comme c'est magique. T'as trouvé le moment où le placer, celui-là. Ouais, Canva, c'est un outil qu'on voit de plus en plus utilisé. Canva, C-A-N-V-A.
Ouais.
.com.
Yes.
Outil en ligne de composition graphique, on pourrait dire ça. Ouais, je veux dire composition graphique. Qui va nous permettre de créer ce que moi je vais appeler des visuels. Des visuels, c'est un flyer, une affiche, un poster, une bannière, des choses qu'on pourrait imprimer, des cartes de visite. Si vous avez connu un peu Vistaprint.
Ouais.
Tu connais Vistaprint ?
Ouais, je connais Vistaprint.
On a le droit de donner des marques.
Faut ce qu'on veut.
Je sais pas, ouais.
Bah, Canva, c'est pas de marque.
Ouais, c'est vrai. Vistaprint, ouais.
Mais bon.
Pour les gens qui ont connu Vistaprint, parce que ça parle aux gens souvent qui ont des boulots à faire. Dans Vistaprint, il y a un éditeur qui te permet de faire tes cartes de visite.
Ouais.
Tes cartes de visite et des flyers. Et donc, t'es connecté en ligne. Et tu vas modifier ton contenu. Et après, t'appuies sur le bouton qui te dit tu peux le commander, tu le commandes. Canva, on est dans un outil qui n'est pas un outil qui est fait pour faire des cartes de visite, mais qui est un outil qui est fait pour créer du contenu. Qui est fait pour créer du contenu qui va être imprimé ou utilisé en ligne. Et
Pas que en ligne.
J'ai dit imprimé ou utilisé en ligne.
Ah ok, pardon.
J'ai dit imprimé.
Pardon.
Non
pardon.
Mais vas-y, tu peux sauter dans la discussion tant que tu veux, hein, c'est une discussion. Donc on est deux, ça va. Mais peut-être tu faisais autre chose.
Allez-y, je vous en prie.
Le maître d'école. Donc, c'est un outil qui va nous permettre. Pour être un petit peu technique, c'est un outil qui est en ligne, principalement.
Uh-huh.
Bien qu'il existe la même version en logiciel téléchargeable.
en application.
PC et Mac. Ouais. Donc, ouais, toi, tu dis application parce que...
Non, parce qu'il y a aussi en application sur smartphone, tablette, etc.
Et en application sur smartphone. Je pensais que tu disais application, comme on dit une application sur un Mac. Donc, effectivement, ça existe aussi en smartphone et en tablette. Je reviendrai sur ce point, le fait d'avoir un logiciel qui est... Non, je vais le dire tout de suite. Le fait d'avoir un logiciel qui est en ligne, en application... et aussi sur tablette et téléphone, c'est qu'il y a une clé qui les unit tous, qui est ton identifiant. Et quand tu as un identifiant pour utiliser ce genre de logiciel, ça fait que tout ce que tu vas créer, tu vas le retrouver sur tous les endroits où tu te connectes.
En fait, tout est enregistré en ligne, quoi qu'il se passe.
Quoi qu'il se
Donc,
passe.
Donc du coup, on le retrouve tout le temps, partout, du moment qu'on est connecté avec son compte, effectivement.
Exactement. Ce qui a certains aspects pratiques, comme par exemple, je prends une photo avec mon téléphone, je la transfère dans Canva, j'arrive sur mon ordinateur, elle est là.
Oui.
Si tant est que j'ai du réseau. OK. Donc du coup, ce type de logiciel, c'est ce qu'on appelle des logiciels... SaaS, si je ne me trompe pas, c'est Software as a Service. Et c'est une des couches logicielles du cloud. Donc du coup, on va pouvoir, dans ce logiciel-là, aller créer des contenus de type affiches et autres. Ça, je l'ai déjà dit. Mais ce qui nous intéresse quand on pense à ce logiciel-là, ce n'est pas simplement de se dire « Ok, je l'ouvre et je peux utiliser le logiciel ». C'est fourni de modèles à ne plus savoir qu'en faire. Quand on se connecte, on a juste à taper ce qu'on souhaite faire et le logiciel va nous proposer un modèle. Quel est l'avantage du modèle ? J'ai quelque chose qui est tendance, on va dire. J'ai quelque chose qui est déjà précomposé et où je vais avoir juste à modifier les textes. Et je peux assez facilement changer les couleurs.
Ouais. Je peux faire une petite intervention là-dessus.
Mais bien sûr,
sur le concept de base, parce que toi, comme moi, on fait de la formation, c'est une chose. Moi, mon boulot, c'est graphiste.
Oui, c'est là que tu m'intéresses. Enfin, pas que, mais.
Et en fait, graphiste, c'est un boulot parmi d'autres, mais c'est un métier. C'est-à-dire que composer une affiche, composer une bannière, composer quelque chose, communiquer, c'est un boulot, c'est un savoir-faire. On ne l'a pas tous. Et ce que je trouve absolument génial avec Canva, c'est que ça met cette capacité au service d'absolument tout le monde. C'est-à-dire que si on prend un modèle Canva et qu'on détruit tout pour recomposer... on repart dans un boulot de graphiste, qu'on va réussir ou pas selon sa sensibilité. Là, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de modèles, tellement de possibilités, qu'il suffit de choisir celle qui nous parle par rapport au message qu'on veut faire passer et de remplir. Et on a quelque chose de clean, avec la bonne typo, avec la bonne composition, avec les bons équilibres. On change l'image. Il restera quelques petites sensibilités esthétiques à garder, pour pas trop détruire le truc. Si on a très mauvais goût, possible qu'on fasse quelque chose de très mauvais goût. Mais dans l'absolu, c'est un outil que je trouve absolument génial de ce point de vue-là. C'est que ça met... C'est un vrai outil de com pour tout le monde et absolument accessible. C'est-à-dire qu'un artisan, un commerçant peut faire son affiche, peut faire sa bannière Facebook, peut faire un post Instagram.
Des parents peuvent faire une carte d'anniversaire.
Ah bah...
En deux secondes. Mais du coup, là où, quand tu viens m'en parler, je trouve ça intéressant, c'est que moi, j'aurais tendance à penser, de prime abord, qu'un Canva, limite, j'en parlerai pas avec quelqu'un qui est graphiste comme toi, tu vois. Parce que j'aurais peur de venir te dire, tu sais, moi, j'utilise un logiciel qui fait la même chose que ton travail et je le fais plus vite que toi et je le fais surtout moins cher.
Espèce de moldu.
Non, mais ça pourrait.
Oui.
Et du coup, ce qui est intéressant à comprendre, c'est ce que tu as évoqué, c'est que le fait de la composition, c'est un travail de graphiste. C'est-à-dire que les modèles qui sont mis à disposition, ils ont été réfléchis. Ils sont réfléchis par rapport à des thématiques. Mais ça n'enlève pas ce qui est dans la tête de l'usager, c'est-à-dire nous, quand on va utiliser Canva, de la nécessité de réfléchir aux messages qu'on veut passer, aux couleurs qui vont être associées. On va prendre un exemple tout bête. La carte d'anniversaire du dernier ou de la dernière, qui va avoir 7 ans. Bon, tout bête. Hein. Si le modèle que tu as pris affiche 10 ans, écrit 7 parce qu'elle a 7 ans. OK?
Bien vu.
Ça, premier bon conseil. Mais surtout, si je sais que le modèle me plaît parce que elle aime les dinosaures, il y a des dinosaures, je prends ces dinosaures, mais que les dinosaures sont verts, alors qu'elle adore le violet, alors je peux changer la couleur des dinosaures. Et du coup, c'est mon cerveau qui se met en place pour dire que souhaite mon client.
Et ta fille de 7 ans, hein, j'ai bien compris. Okay.
Et je vais adapter. Les gens vont croire que j'ai une fille de 7 ans.
Ouais, même pas. C'est moi.
C'est vrai. Elle a 7 ans.
8 aujourd'hui.
Ah, bah, tu vois, bah, tu mettras 8. Hein. Aujourd'hui
Hier.
Oh, punaise, bon anniversaire. Et je ne savais même pas. Trop bien joué. Donc, du coup, il va falloir avoir gardé à l'esprit cette réflexion-là. Et. C'est en ça que Canva est intéressant parce que il y a plein de fonctionnalités et je sais que on aime beaucoup Canva et on peut en faire beaucoup de choses. Il y a plein de fonctionnalités qui nous permettent d'aller loin dans l'outil, mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je souhaite en faire et comment je l'utilise dans le cadre de mon travail. Est-ce que une question de base, hein, par exemple, est-ce que j'ai du temps pour décomposer un modèle? Quand tu as parlé de décomposer un modèle pour le refaire, si ma volonté c'est de faire des choses qui me ressemblent beaucoup, il faut admettre que ça prendra du temps. Si je n'ai pas le temps pour ça, si je dois me concentrer sur autre chose, c'est un moyen rapide de créer du contenu. C'est un moyen rapide et facile et qui permet de créer du contenu. On a donné l'exemple affiche, flyer, carte de visite, mais si on pousse un peu plus loin, c'est les réels Instagram, c'est des vidéos YouTube, c'est de la vidéo tout simplement. Ça nécessite d'autres compétences, mais il est possible de créer des modèles assez facilement ou de créer des éléments qui pourraient être réutilisés ailleurs. Et je crois même que depuis Canva, il y a une fonctionnalité qui permet de planifier ses publications sur les réseaux sociaux.
Ok.
Que je ne recommande pas.
Ok.
Parce que... dans mes recommandations sur ce genre de sujet, je vous dis toujours de privilégier l'outil maison. Donc, quand on publie sur Meta, Facebook, là, utilisez Meta. Parce que c'est mieux. Donc, mais il y a quand même cette volonté d'amener la puissance du graphisme au service d'un objectif. Mm-hmm. Et c'est ce que moi, je trouve intéressant. Toi, tu l'utilises beaucoup ? Non, ne me dis pas ça.
Alors, j'utilise régulièrement. Bizarrement, hein, ouais. Parce que du coup, en tant que graphiste, j'ai accès à tous les outils pro pour créer du design, pour faire de la mise en page, du Photoshop, des choses comme ça. Et bien entendu que je vais avoir une liberté totale de création. Mais l'apprentissage de ces logiciels demande pas mal de boulot, mine de rien.
Ouais.
Moi, je vais souvent sur Canva parce que, bah, par exemple, il n'y a pas plus chiant que les bannières de réseaux sociaux. C'est jamais les mêmes tailles selon les réseaux. Selon l'endroit où on se trouve, ça va pas être la même taille de bannière, etc., etc. Ben, Canva, j'aime bien. Je tape le nom du réseau social. Il me propose toutes les tailles de bannière disponibles. C'est hyper facile à composer. De temps en temps, ça peut être pratique. Il y a des petites animations. Ça permet de faire l'équivalent de PowerPoint, mais avec des animations très sympas, des petites animations, on va poser un petit personnage, une illustration, mais une illustration qui peut être animée. Il y a une manière de faire arriver les textes, les titres, un peu comme si on était sur un site. Il y a plein de choses d'interaction et d'interactivité que je trouve très intéressantes.
Okay.
Donc, ça m'arrive régulièrement, ouais, d'aller dessus. Et j'adore, enfin, je le conseille super régulièrement.
Ouais.
Là, j'ai un petit exemple. C'est mon fils doit faire un exposé. Il a 11 ans, il doit faire un exposé. Tu dis, OK, fais ton exposé. Première intuition, c'est de se dire, ben, je vais le faire sur PowerPoint. Ouais. C'est facile, je prends des images, je les pose dedans, voilà. Puis après, on peut faire des petites transitions dans PowerPoint entre les slides.
Ouais.
Et là, je dis, non, mais va sur Canva. Quelques minutes, je lui montre 2-3 trucs, il avait compris comment ça fonctionne. Je connais peu d'interfaces utilisateurs aussi bien foutues que Canva. Alors, c'est très touffu parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, quand on cherche, on tape sa recherche, tout de suite des solutions, et ensuite, l'utilisation est vraiment intuitive, donc ça, c'est cool. Donc, lui, se l'est approprié assez rapidement.
Canva est utilisé comme outil de référence. Hein. C'est pas listé comme outil de référence, mais utilisé très régulièrement en collège pour faire des présentations. Okay. C'est-à-dire que en cours, il arrive très couramment que les collégiens aient à produire un contenu où, c'est le brevet en ce moment-là, l'oral du brevet, Canva. Canva. Et effectivement...
L'outil est gratuit, on l'a pas dit, hein, mais c'est hyper important.
C'est parce que quand tu m'as dit PowerPoint, je me suis dit, oui, mais PowerPoint, Jimmy, c'est payant.
Eh oui, bien sûr.
Alors, si on veut du pas payant, ça s'appelle Impress, je crois, dans LibreOffice. Mais effectivement, PowerPoint est un outil payant. PowerPoint est un outil avec ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage qui est plus compliquée.
Ah, Canva, beaucoup plus compliquée, oui.
Parce qu'on parle d'une interface Microsoft, hein. Donc c'est pas non plus c'est mieux mais c'est pas non plus Hollywood et là effectivement on est sur quelque chose qui a l'air plus enfantin qui est clairement plus enfantin dans les dans la taille des icônes dans les dispositions moi j'entends pas mais qui est effectivement plus efficace si on sait vers où on va on a quelque chose qui est plutôt pas mal alors Canva est gratuit. Canva nécessite quand même de créer un compte.
Oui, c'est vrai.
Je l'ai dit au début, c'est ce qui nous permet de tout relier. Ça permet de créer un compte. Canva est gratuit, mais Canva existe aussi en version payante.
Oui.
C'est-à-dire que quand on va utiliser ce logiciel de manière gratuite, on va très souvent, très rapidement, être sollicité pour utiliser du contenu payant. Donc, on va nous proposer d'accéder à une offre payante qui nous permettra d'avoir plus d'images, plus d'éléments, plus de contenu. Un petit conseil, posons-nous d'abord la question de ce qu'on souhaite faire et est-ce que dans ce que je souhaite faire, il y a un contenu qui est disponible pour moi. Canva, je crois que c'est 120 euros l'année. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire une photo dans Canva, c'est 1 euro. Je dis aux gens, si vous n'avez pas besoin de 120 éléments dans l'année qui soient payants à 1 euro, alors vous n'avez pas forcément besoin de la version payante de Canva. Pour autant, dans la version payante, il y a l'outil qui fait de l'ombre à tous les graphistes comme toi, Jimmy. L'outil de détourage.
Ouais, entre autres, ouais.
Qui s'appelle ici un outil de suppression d'arrière-plan. Qu'il fera certainement moins bien que toi, mais qui, sur des formes simples, fait le job.
Ouais, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est absolument dingue.
Ouais.
C'est vraiment... d'ailleurs...
Mais tu le fais quand même
on
mieux.
En parlera une autre fois, mais la prochaine itération d'iOS, par exemple, propose un truc de détourage incroyable. Et on en reparlera une autre fois, c'est hallucinant ce qui se passe là sur l'intelligence artificielle, ça marche super bien. Mais en fait, ce qui est intéressant là dans Canva, en payant, c'est quand on veut professionnaliser un petit peu le truc et en restant sur cet outil qui est simple, c'est que je vais pouvoir amener mes éléments de charte, dire mon entreprise a telle couleur de charte, telle typo utilisée, etc. Quand je vais utiliser...
Je te coupe.
Ouais, je t'en prie.
La typo, c'est la police de caractère.
Oui, merci. Ok. Ouais, ouais, non,
tout et oui, fait. Parce que toi, dans ton élan, tu dis typo, mais c'est la police de caractère.
La police de caractère. On va pouvoir mettre à la charte, donc à ses couleurs, n'importe quelle composition. On va pouvoir changer, redimensionner des compositions. C'est-à-dire que si j'ai fait une affiche en A4, je vais pouvoir en faire un petit flyer à distribuer. Je vais pouvoir en faire une présentation dans l'autre sens. Mmh. Et les éléments vont se recomposer. Il y aura un petit peu de calage à faire, mais les éléments vont se recomposer. Ça, c'est hyper intéressant. J'aurai accès aux images, à plus d'images, plus de choses comme ça. Voilà. Il y a plein d'éléments qui sont pratiques pour plus de productivité. C'est ça qu'on va payer.
Ouais.
Pour un usage ponctuel... La version gratuite marche très bien et vraiment hyper maligne.
Ouais.
Là, sur la présentation, sur l'exposé dont je parlais, que mon fils a fait, il met ses éléments, un peu de texte, voilà. Et puis, d'un coup, il pose un petit personnage et le personnage est animé.
Ouais.
D'un coup, on a une espèce de mini dessin animé, un petit personnage qui sourit, qui balance de la tête, qui fait coucou, des choses comme ça. quand il va présenter ça, tout de suite, ça fait son effet.
Oui.
Et la présentation, au lieu d'être un truc très PowerPoint, on connaît tous l'enfer de PowerPoint, de « je lis mon PowerPoint et j'ai envie de mourir » et les gens en face ont envie de mourir. Et ensuite, on les fait revenir. Là, d'un coup, à chaque page, il y a une surprise, il y a un petit truc qui se passe. Ouais. Il peut lancer une musique, mettre une vidéo qui va se lancer. C'est top, quoi.
On dirait quand même que ça ressemble beaucoup, quand tu me le présentes comme ça, si tu ne dis pas Canva, c'est PowerPoint.
C'est PowerPoint en
des années 2000.
En beaucoup plus simple.
Mais du coup, il y a vraiment ce... J'ai presque envie de dire, il faut le voir pour le croire. Parce que si on le dit comme tu vois, je ferme les yeux et je t'écoute, je me dis, ouais, ok, des diapositives, des contenus, un petit bonhomme qui bouge, de la musique, c'est un PowerPoint.
Je peux te faire la différence.
Comme dans les réunions. Vite, ouais, vas-y.
Juste, PowerPoint, j'ouvre ma page PowerPoint. En général, il y a des modèles, c'est-à-dire que quand je rentre, je fais un titre, un sous-titre, voilà. La première chose que tout le monde fait sur PowerPoint, c'est je dégage ces cadres dans lesquels il faut taper des choses. Ce qui fait que j'enlève tout ce qui a été pré-composé.
Ouais.
Ensuite, je vais vouloir mettre mon texte. Donc, j'ouvre une fenêtre texte. Je tape mon texte. Voilà. J'ai une petite case texte. Une image. J'ai besoin d'une image. OK. Je vais sur mon ordi ou sur Internet et je vais chercher une image que j'importe dans PowerPoint. Je veux une vidéo. Je vais sur mon ordi. Je vais chercher une vidéo. Ou il faut que j'aille télécharger une vidéo sur un site que je fous sur mon ordi, que je vais mettre dans PowerPoint, ok ? Vas-y.
Vas-y, moi je te challenge, parce que PowerPoint, je connais un petit peu, et dans PowerPoint, je peux intégrer Pexel, par exemple, qui est une base de données libre d'images, et ils ont des petits add-ons qui maintenant permettent d'aller chercher une image.
Ouais. Donc tu viens de me rajouter un... faut que j'ouvre PowerPoint, que je rajoute un add-on, que j'aille chercher dans un truc ça, Pexel ouais, dont j'ai jamais entendu
problème.
Parler.
Ouais.
Voilà.
C'est bien ça le problème.
En fait, sages usages, la techno qui vous... le but, c'est pour qu'un usage soit pris en compte et qu'on puisse vraiment l'utiliser, il faut que ce soit le plus fluide possible. Dès qu'il y a une friction... C'est une bonne raison de ne pas y aller.
Ouais.
D'accord ? Ça, on connaît bien ça dans les sites internet quand on compose. Tu connais ça très bien avec tes stagiaires.
Je croyais que tu allais me dire avec le sport.
Non, non. Sur internet, c'est si quelque chose n'est pas clair, si je ne trouve pas tout de suite mon information, si c'est long à charger, bah en fait, le syndrome de la croix, je ferme et je vais voir autre chose. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Là. Sur PowerPoint, alors PowerPoint, ça fait des années que c'est là, c'est dans toutes les boîtes quasiment. Toutes les boîtes ont l'abonnement et ont leur PowerPoint. Donc, on peut le poser, mais c'est pas simple d'usage. Canva, j'arrive, je suis dans l'interface, quel que soit... J'ai pas le logiciel, c'est pas grave, j'ai sur Internet et j'ai accès à Canva. Je l'ai sur mon téléphone, ok, je peux le faire depuis mon téléphone. Je l'ai sur ma tablette, je peux le faire depuis ma tablette. Donc déjà ça, niveau accessibilité, super simple. Et surtout, une fois que je suis dedans, tu parlais des modèles... J'ouvre un modèle qui est déjà précomposé avec des images. Si ça me suffit, j'ai juste à changer le texte. Si ça ne me suffit pas et que je veux importer du texte ou des images, ben, soit effectivement, je vais chercher une image perso que je vais télécharger, prendre sur mon ordinateur, comme dans PowerPoint.
Oui, ce qu'on sait faire quasiment dans tous les logiciels, voilà. Ça va.
Mais ce qui est vraiment intéressant, sans ajouter d'add-on, j'ai un petit champ de recherche. Je tape ce dont j'ai besoin et il va me sortir les images, les illustrations qui correspondent. Et comment je vais faire ? Je vais cliquer dessus, glisser et le déposer sur ma fenêtre. Et sur ma fenêtre, je le pose à l'endroit où je veux. Je choisis la taille où je veux le mettre et basta. Il n'y a pas plus simple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Je te le dis, mes enfants l'utilisent. Super, vraiment hyper intuitivement.
Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça résout beaucoup de ces frictions qu'on a effectivement dans d'autres logiciels. C'est-à-dire que ça fait au moins la même chose et ça le fait forcément mieux puisque c'est plus simple.
En plus simple, c'est du exactement coup. Ça.
Ouais.
Là, tu vois, j'ai l'interface sous les yeux. Ben, j'ai modèle, les éléments, c'est-à-dire je vais mettre un rond, un carré, une patate, un petit bonhomme qui bouge, voilà. La galerie, c'est-à-dire toutes les photos que moi j'aurais importées.
Mm-hmm.
Du texte. Et alors là, j'ai le texte que je vais pouvoir taper, comme dans un PowerPoint.
Ouais.
Mais j'ai du texte pré-composé, c'est-à-dire je veux un bloc de titre qui ait de la gueule
ouais.
pour une invitation.
Ouais, je vois très bien, il y a des assemblages avec, de police. Voilà, avec ouais.
la date qui ressort bien, le sujet, etc., etc. Je glisse ce truc-là et j'ai plus qu'à changer les informations dedans. C'est hyper simple. J'ai de l'audio. Et après, on peut le lier à 1000 logiciels derrière. Tu parlais ouais. de Pexel, ben, je peux le lier à plein, plein d'autres logiciels. Et là, c'est lié à Unsplash, si je ne me trompe pas.
Là, je crois que Canva est lié à Pexel, Pixabay et Unsplash.
Ouais, les trois.
Bah, les trois.
Ça ouais. pareil, ça méritera qu'on fasse un sujet ouais. spécifique là-dessus.
Mais toi et moi, on a déjà parlé de Canva. Je pense que ça vaudrait le coup, effectivement, qu'on le fasse sur un sujet encore qui est plus poussé, voire même qu'on fasse des petites capsules sur Canva, ouais. sur quelques spécificités, parce que quand on parle de connexion à d'autres logiciels, un truc de base, par exemple, la connexion à Google Photos.
Ouais.
Canva connecté à votre Google Photos, ça veut dire que si vous faites des photos sur votre téléphone, que votre Google Photos de téléphone est relié à votre Google Photos sur votre ordinateur, ce qui est vraisemblablement le cas, quand vous faites une photo sur votre téléphone, vous pouvez la récupérer dans Canva très facilement. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le workflow. Le workflow.
Workflow. Traduis-moi ça, parce que c'est un peu fort.
Le flux de travail, mais voilà. ou simplement le flow. Effectivement, c'est ce qui nous permet de gagner du temps. En fait, et de se dire, ça, c'est pas dans ma tête, c'est pas compliqué.
Encore une fois, si c'est simple, on va l'utiliser. Si c'est pas simple, il faut vraiment pas avoir le choix pour aller l'utiliser, ouais. quoi.
J'ai cru que t'allais me dire, si c'est simple, c'est vous le produit.
Non, c'est encore autre chose.
C'est exactement ça. Si c'est simple, on va l'utiliser. C'est quoi, Jimmy, ton élément ou ton objet préféré dans Canva?
C'est la tortue qui nage.
Non. Il y a une tortue qui nage.
Oui.
Non, je voulais dire, pardon, tu sais, il y a des éléments comme des grilles, des cadres, des graphiques, des photos, des vidéos, de l'audio. Moi, il y en a un qui a ma préférence.
Bah vas-y, donne ta préférence ouais. parce que moi, je vais sortir du cadre, justement.
Ah, bah justement, moi, c'est le cadre.
Mais connecté, c'est beau. Quoi.
Dans Canva, il y a une série d'éléments qui s'appellent les cadres.
Ouais.
Et les cadres, ce sont des éléments qui ont une forme bien spécifique et qui, à l'intérieur, ont un petit paysage.
Oui.
Ce petit paysage veut dire que tu peux glisser une image dedans. Et du coup, c'est l'élément de base qui permet de faire un truc que plein de gens aiment faire, mettre une photo dans un rond.
Oui, ou faire des petits montages photos, deux photos les unes à côté des autres. Quand Exactement. Je dois faire ça en formation Photoshop, quand on me dit « Ah bah je voudrais faire un montage avec deux, trois photos », et là je fais « Ok, alors, c'est complètement faisable, c'est ouais. pas hyper compliqué ». Mais quand je compte le nombre de manips qu'il faut faire, ouais. je prends mon image, j'apporte mon image, je recadre mon image, je redimensionne mon image. Et après, il faut que je fasse en sorte qu'elles soient à peu près alignées les unes aux autres. Je suis waouh,
ouais.
tout ça pour ça. Je vais dans Canva, je prends mon modèle, je glisse dedans et ça y est, c'est fait.
Exactement.
Fait, oh, ouais. Ouais.
Et donc, ces éléments cadres-là, je les trouve magiques. Ils sont pas tous très beaux. Mais les éléments de base, rond, carré, les formes simples, parce qu'après, on a des tableaux, des papiers déchirés ou des choses comme ça. Là, c'est assez magique. Tu as évoqué quelque chose qui nécessite toute ton expertise, ou en tout cas l'expertise de quelqu'un qui maîtrise Photoshop quand on est en train de concevoir une compo graphique. C'est l'alignement.
Ouais.
Et l'alignement dans Canva, c'est quelque chose qui se fait assez simplement puisque quand on déplace n'importe quel élément, Canva va rajouter en surimpression avec en plus ce petit aspect un peu magnétique quand on déplace l'élément avec la souris, il va rajouter à l'écran les lignes en fait, les lignes médianes
ouais.
qui permettent de dire cet élément est aligné sur le milieu de la composition, verticalement, horizontalement, il est en équilibre par rapport au bord, il est en équilibre par rapport aux autres éléments, et pour les fans de PowerPoint, on retrouve aussi dans Canva une fonctionnalité qui permet d'aligner les éléments horizontalement ou verticalement entre eux et par rapport à la compo.
Complètement. Ouais.
Donc, on est vraiment sur, à minima, un PowerPoint boosté. D'ailleurs, il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des sociétés ou des sociétés qui, donc je vais dire des particuliers, mais des particuliers ne font pas de PowerPoint, ou peu, ou alors c'est un passionné, des sociétés qui décident de basculer de PowerPoint à Canva pour présenter des fiches produits, du contenu, qui ne soit pas forcément du contenu publicitaire, mais du contenu de type document pour la structure, et qui dit bah, je mets ça dans Canva, je m'organise dans Canva. Je peux le partager avec d'autres. Le partage, je te propose qu'on en parle d'autres fois.
Ok.
Ah, tu voulais dire un truc sur le partage. Ah, je t'ai bloqué en plein élan sur le partage.
Non, mais justement, bon, oui, parce que tu me demandais mon élément préféré.
Ah, punaise, c'est ça, vas-y.
Et en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Parce que c'est absolument dingue, tous les éléments qu'il y a. J'étais en train de rechercher, je me disais, mais... Oui, je peux faire des choses graphiques, mais il y a des éléments. Là, je suis tombé sur le SWOT. Le SWOT, c'est vraiment un truc de poser ses forces, ses faiblesses, etc., etc. Okay. C'est une technique.
Ok.
Connue, pas connue, voilà, c'est pas important. Mais ça, c'est dans Canva, ça veut dire que j'ai cette base-là.
Ok, c'est une base, la base graphique
voilà.
Qui permet de...
Je n'ai plus qu'à utiliser cette méthode-là.
Ah, c'est le même principe que quand on fait son Ikigai, là.
Oui, ben c'est okay. Pareil.
Ok,
c'est,
voilà. Swoot, Ikigai,
des trucs de... bizarres. Hein.
C'est des techniques et des éléments de, j'ai envie de dire, développement personnel, mais...
De facilitation pour les idées, pour poser c'est une idée ou pour poser... Ça ouais. Peut être utilisé personnel. Le SWOT, c'est force, faiblesse, strength, weakness, possibilité, opportunity et menace.
OK.
Voilà. Donc, okay, oui. C'est un truc comme ça, c'est hyper intéressant. Ouais, on en parlera une autre fois, c'est encore autre chose.
Ouais,
mais c'est pour dire la richesse de ce que ça apporte de base,
ouais.
De tout ce qu'on peut trouver dedans. Et moi, ce que je trouve vraiment fou, c'est ce que je peux faire sortir. C'est-à-dire que je peux faire sortir des PDF pour impression,
ouais.
Sous réserve d'avoir mis des images de bonne résolution.
Ouais.
Là, c'est le graphiste qui parle.
Ouais.
Mais sous cette réserve-là, je peux sortir des PDF qui sont parfaitement imprimables. Je peux sortir des PDF qui sont légers pour les partager par mail, par exemple. Je peux sortir des JPEG, donc des images, différents types d'images. Ça, c'est assez classique, tout ça.
Mmh.
Je peux créer un lien directement partageable. Ça veut dire que de mon interface, j'ai fait la présentation dont je parlais tout à l'heure. J'ai une petite présentation avec des personnages qui bougent. C'est vraiment un PowerPoint un peu animé.
Cool. Ouais.
Plutôt que d'exporter le fichier PowerPoint, de l'envoyer à quelqu'un qui doit avoir PowerPoint pour pouvoir l'ouvrir, sinon c'est foutu.
Oui.
Je lui envoie un lien. Clique dessus sur ce lien. Ça ouvre une page web et ça joue ma présentation directement. Il n'y a besoin d'absolument rien d'autre.
Okay.
Ça,
ouais,
déjà, c'est sacrément
ouais.
Cool.
Ouais.
Autre chose, je peux inviter quelqu'un sur ma création. Et ça le bien. Nombre de fois où je l'ai fait, justement, on va me demander, on me dit, Jimmy, tu peux me filer un coup de main habituellement, c'est envoie-moi ton fichier, je vais te retoucher, ou je t'explique comment ça marche là. On est ensemble sur le même fichier, à deux ordis différents, deux endroits différents, on voit nos flèches, nos curseurs se balader. Je dis, écoute, là, le texte, je le changerai, je le mettrai plutôt comme ça, tiens, on va essayer cette couleur. Je fais la modif, la personne le voit directement en face. Et pendant cela, une fois, il n'y a pas si longtemps, on bossait à quatre mains.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on avait un fichier un peu balèze avec pas mal d'infos dessus.
Ouais.
Donc, on pose les éléments. Je dis, ça serait pas mal de le changer. Moi, je pars du haut. L'autre personne partait du bas. Et on faisait chacun nos modifs. Et en 3 minutes, on avait modifié tout le document. On était super contents.
Ouais, ça, c'est bien. Ouais.
C'est bien, c'est dingue.
Ouais, c'est
hallucinant.
Ouais.
Tous ces logiciels, j'ai 1,5 million de logiciels. On n'a pas fini de faire des épisodes. Hein. Vous parlez justement tous les logiciels collaboratifs. Je trouve ça mais fabuleux.
Ouais, ça c'est fabuleux. Ouais.
On est de plus en plus en télétravail.
Ouais.
Et quel bonheur pouvoir faire ça. Ça veut dire qu'imagine dans ta boîte, t'es avec tes employés, toi t'es le boss. Et t'as un employé qui dit ben je vais faire une affiche pour promouvoir cet événement qu'on va faire. Mmh. Ok. Soit il fait toute son affiche, il te l'envoie, toi tu fais tes corrections en disant ça me va pas. Difficile en plus à expliquer en direct.
Hein. Ouais.
Soit il t'envoie le lien, toi tu te connectes dessus et ensemble vous regardez en direct et tu lui dis vas-y change-moi la couleur pour voir, et tu changes la couleur en direct, toi tu lui dis attends j'ai une photo qui me plaît, paf tu vas la glisser dessus, il va la voir en direct aussi.
Ouais.
C'est juste fou et c'est une manière de tellement intelligente de bosser, tout le monde gagne du temps, de la fluidité, donc voilà.
Ça veut dire encore une fois qu'on va mettre la logique humaine au milieu de cette utilisation, c'est-à-dire que l'outil va nous servir à nous, les humains, et il va falloir qu'on se mette d'accord sur notre mode de fonctionnement pour utiliser l'outil au mieux par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Quand tu me parles de la société, quand tu me parles de cette société où je peux travailler, je suis le boss et puis j'ai un péon, j'essaye de trouver un exemple de la vie perso.
Ouais.
Je me dis, dans quel cadre de la vie perso, je pourrais être amené à collaborer sur un document. Ok ? J'en ai un. Anniversaire surprise d'un ami ou d'une amie. Hop, on prépare un document. Soit le fameux PowerPoint qu'on présente avec des vidéos rigolotes. Donc on est plusieurs invités sur le document. Les gens viennent mettre leur contenu. On a créé le document rapidement. Ouais, ça, c'est un bon exemple.
Chacun crée sa page. Tu poses un modèle et tu dis, vous remplissez ici, vous mettez une photo. Ouais. Ici, vous mettez une petite anecdote.
Ouais, totalement.
Et chacun le fait plutôt que
bonne idée,
tu reçois
ça,
un mail de la part de 25 personnes en relançant, en disant, dis donc, tu l'as pas fait, etc.
On reparlera d'outils collaboratifs comme ça pour éviter de s'envoyer des mails, s'il te plaît.
Il y en a tellement.
Et dernière chose, parce que je sais que Canva nous fait beaucoup parler. Une fonctionnalité qui n'est pas négligeable dans Canva, la possibilité de revenir en arrière, si on a fait une erreur, ce qui n'est pas donné à tous les logiciels, ou en tout cas sur la durée du retour en arrière. Et on peut vraiment revenir loin en arrière dans Canva.
Tout à fait. Et ça, c'est hyper pratique. Ouais. Mais oui, ça mérite vraiment, ça mérite d'aller jeter un coup d'œil. Et de manière, on peut vraiment être surpris de la profondeur qu'il y a dans Canva, de tout ce qu'on peut aller faire derrière.
Totalement.
C'est autant un outil de noob, vas-y, explique.
De novice,
etc. Exact, pardon. C'est, oui, un outil de novice, mais c'est un outil qui peut être assez avancé, on peut faire pas mal de choses. L'important, c'est à quel moment je l'utilise, comment ça me fait gagner du temps.
Oui, l'important, ça n'est pas que la rose.
Tout à fait.
Et Jimmy, si tu veux bien, moi je te propose un truc. C'est qu'on demande aux gens qui écoutent ce podcast, s'ils veulent laisser un message dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, de nous dire si ils sont intéressés par le fait qu'on développe un peu plus Canva. Moi, je serais assez, ça me ferait assez plaisir et je serais assez amusé de développer un peu plus des petites capsules sur cet outil-là et comme sur d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui viendront où on peut, c'est pas du tuto, hein, mais où on peut vraiment parler un petit peu plus de certains usages et de comment on peut se l'approprier et l'utiliser bien pour la vie d'humain.
Ouais. Tiens, je mettrai dans tout le contenu qu'on met en description le lien vers l'exposé de mon fils.
Ah, mais vas-y, fais-toi plaisir.
Un exposé sur Chypre fait pour un enfant de 11 ans.
Ok.
Peu importe le contenu, je me doute que tout le monde ne va pas.
Toi, tu veux faire péter les stats.
Ouais, c'est un truc de.
Ouais, ça sent Google Analytics derrière.
Ce qui est intéressant, c'est de voir, tiens, il l'a fait vraiment, on a construit ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire sur chaque élément, sur un papier.
Ouais.
Et ensuite, il s'est débrouillé. Je lui ai montré comment ça fonctionnait et il s'est débrouillé. Je l'ai aidé à faire quelques recherches d'éléments, mais pas plus.
Okay.
Et regardez le résultat et comment c'est vivant Alors, c'est très, très simple. Hein. Il y a peu de contenu, mais comment c'est vivant par rapport à ce qu'on ferait sur un PowerPoint. Et
volontiers.
Si vous êtes dans une entreprise, repensez aux présentations PowerPoint que vous avez eues très, très intéressantes avec des tonnes de contenu dedans. Ouais. Je ferai aussi un jour une capsule sur comment on construit un PowerPoint, pas techniquement. Comment, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un PowerPoint pour que ce soit quelque chose, une présentation en général, pour
c'est
que
là ce tu soit du chemin de fer.
Ouais, en fait, comment ça se construit et comment on fait pour pas perdre l'intégralité de son auditoire.
Ah ouais, ça marche, voilà. Ça m'intéresse.
On fera ça aussi.
Super.
Bon.
On est pas mal là pour celui-là.
On est pas mal.
Il t'a plu cet outil ?
Yes.
Ok, ben on y reviendra.
Alors Yannick, juste avant, tu nous parlais de Canva et de cette possibilité de revenir en arrière éternellement, encore et encore. Ça, c'est génial. Eh ben, tu sais quoi ?
Quoi ?
Je te propose un voyage dans le temps. Un petit truc très rapide, c'est juste... j'ai deux, trois petites choses à pour vous faire voyager dans le temps. Je trouve ça magique. Je suis tombé là-dessus et ça me, vraiment, je trouve ça dingue.
Amène-nous dans le temps.
Alors, il y a des choses qui sont juste fun et il y a un truc qui peut être même carrément hyper pratique. J'ai une machine à remonter dans le temps sur Internet. Est-ce que tu connais ?
Ouais.
Oh, merde.
et ouais, mon gars, je la connais.
Mais t'inquiète, je t'aurai. Un jour, je t'aurai. Donc, tu connais la Wayback Machine ?
Yes, I do.
Est-ce que c'est pas trop dingue ?
C'est formidable.
Voilà. Et moi, ça m'arrive de concevoir des sites Internet.
Mm-hmm.
Et en fait, ça m'arrive aussi de me dire, putain, celui-là, il était trop bien. Et j'ai plus une trace, il est plus en ligne. C'est mort. Et la Wayback Machine, en fait, c'est des captures dans le temps de tout ce qui se passe sur Internet. Ouais. Des sites.
C'est
du coup, ça permet de faire un truc, mais qui est absolument dingue, qui est vraiment un retour dans le temps. C'est-à-dire que des sites que j'ai rénovés, par exemple, redesignés, bah, une fois que c'est fait, en fait, on se rappelle plus comment c'était exactement. Je peux revenir. Alors, il n'y a pas des captures à chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Voilà. Mais ponctuellement, je peux revenir. Peut-être il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois. Ça va dépendre de quand des captures ont été faites.
Ou même des années.
Ouais, mais bien sûr, au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est hyper pratique. Je tape le nom de n'importe quel site, et ben, j'ai refait l'exercice, un site que j'ai complètement redesigné, et je suis revenu au site précédent. Et des fois, quand on veut dire, tiens, regardez d'où on vient et regardez là où on va, ben, c'est une vachement intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas gardé ces traces-là. Ouais. Encore plus intéressant, et ça... j'avais découvert ce site par un YouTuber qui parlait d'une affaire et autour d'un site qui montait des arnaques. Un site qui n'est plus en ligne. Et du coup, il montrait des captures de ce site et de comment avait évolué ce site dans le temps. Et là, je me suis dit, mais comment il fait ça ? Et c'est là que j'ai découvert The Wayback Machine. Et par exemple, on a parlé précédemment d'Amazon. De comment l'interface d'Amazon évolue. On oublie.
Ah ouais,
Il y a des mises à jour régulières. Des fois, on s'en rend même pas compte.
Je viens d'avoir une sorte de vieux visuel de la première interface d'Amazon ou même de Netflix.
Eh ben, tape Netflix ou Amazon dans Wayback Machine. Ouais. Et là, tu vas voir, il va y avoir une espèce de calendrier et tu vas pouvoir revenir. Alors, il y a 6 mois, pas très intéressant. Il y a 1 an, tiens. C'est pas exactement pareil. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans.
Ouais.
Et là, on voit les évolutions absolument dingues d'interface.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouve ça assez magique, en fait. Une époque, alors grosse frustration pour moi, j'ai cherché ça pendant des heures parce que quand je suis tombé sur Wayback Machine, je me suis dit, waouh, faut que j'en parle. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc où j'allais il y a quelques années que je trouvais génial et c'est plus en ligne. Donc, je pourrais utiliser Wayback Machine pour le retrouver.
Et
ce n'est qu'une capture. Le site n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'est dommage. Ouais. Mais à une époque, Lina avait créé un truc, une machine aussi à remonter dans le temps. Et je pouvais taper, par exemple, ma date de naissance. Et j'avais le journal du jour de ma date de naissance. Oh, c'était hyper pratique, une chouette interface. Alors, on doit pouvoir encore le retrouver d'une certaine manière,
ouais.
Mais il y avait une interface qui faisait que on avait vraiment cette impression un peu de remonter dans le temps qui était très, très sympa.
Ah, cool.
Je vais vous parler en complément d'un autre truc que je trouve très, très sympa. C'est une application qu'il faudra charger sur vos téléphones ou sur vos tablettes, mais que je trouve vraiment très cool. Ça s'appelle Radio...
Mais je pensais à Radio quand tu as parlé de remonter le temps à la fin, là. Et je me suis dit, oh, faut que je lui parle de la musique.
Hein, je t'aurai un séjour, je t'aurai.
Avec combien de hauts, monsieur?
Alors, 1, 2, 3, 4, 5 hauts.
Avec 5 hauts.
5 hauts radio.
Ouais.
Et c'est hyper cool. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. L'espace, parce qu'on a une espèce de grande carte map monde, où on va pouvoir choisir son pays.
France.
Voilà, la France, monsieur. Et là, par exemple, si j'appuie sur la France et que je choisis une date, par exemple les années 80, eh ben, il me lance une playlist directement des musiques qui passaient dans les années 80 en France, de ce qui marchait bien. Là, par exemple, premier truc, Niagara, Soleil d'hiver.
Oh, très jolie chanson. Ouais.
Donc voilà, et c'est sélectionné par des contributeurs. Donc c'est pas des algorithmes, là, c'est vraiment des humains qui choisissent ça.
Ce qui veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des fois une petite erreur sur la décennie, mais rarement.
Ça pourrait, mais en fait c'est assez autocontrôlé, c'est comme Wikipédia. Ouais. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se plante, il y aura toujours quelqu'un pour venir dire « dis donc, c'est pas exactement juste ce que tu me racontes là ».
Comme Wikipédia.
Voilà. Donc, voilà, c'est... Je m'étends pas plus là-dessus, mais en fait, quand on cherche des choses à écouter de manière un petit peu originale, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est, tiens, qu'est-ce qui marchait pendant qu'en France, on était sur Niagara, en Allemagne, en Espagne ou en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils écoutaient à cette même époque?
Ah, ouais, ouais.
Il y a une émission de radio qui faisait ça à une époque, je trouvais ça génial, j'adorais.
J'adore radio.
Quels sont les tubes? Là, en ce moment, nous, les tubes, le top, on sait à peu près ce que c'est. Tiens, c'est quoi le top dans un autre pays, au Chili? C'est quoi le top en ce moment au Chili? C'est hyper intéressant.
Ouais, c'est vrai.
On se rend compte qu'on écoute des choses qui peuvent être... Il y a les grands tubes qui traversent et qui sont partout. Et puis, il y a des spécificités.
Il y a des spécificités
et
locales.
C'est hyper agréable à écouter.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et...
Vas-y.
Ah, tu voulais...
Moi, je voulais simplement dire qu'il faut absolument être curieux. Parce que... Non, mais vraiment, c'est... Ce qui amène à ça, c'est la curiosité.
Tout à fait.
C'est d'avoir envie de découvrir des choses.
Et c'est hyper... Ouais, et puis c'est chouette, là, de ce retour dans le temps.
Ah, totalement.
J'avais en tête aussi une interface, il faudra que je la retrouve, ça me vient là maintenant, mais pareil, où on pouvait avoir des vidéos YouTube exactement à certaines dates. Il y a aussi des sites qui proposent, je vous le mettrai en description aussi, des sites qui proposent quelle musique exactement y avait été au top, premier du top 50, entre parenthèses,
ouais.
Le jour de ma naissance.
Le jour de la naissance, ouais.
Voilà.
Donc, il y a des sites qui font des playlists aussi de ta naissance.
De ta naissance.
Le jour de ta naissance.
Voilà.
Les 10 morceaux qui étaient en tête
naissance,
des charts.
Je ne vous la donne pas, mais sachez que le film qui cartonnait, c'était Jaws, Les Dents de la Mer.
Ouais.
Voilà. La musique qui cartonnait, j'ai oublié.
La musique des Dents de la Mer.
Non. Non, c'était autre chose, mais c'est rigolo de jouer à ça, en fait. Voilà.
Ouais, je pense qu'il faut se faire plaisir.
Et... Une dernière remontée dans le temps que je trouve dingue, qui est sous notre nez tout le temps. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, soyez curieux, allez voir. Je trouve ça génial. C'est Google Maps.
On peut remonter dans le temps avec Google Maps?
Hey ! Non, tu dis ça juste pour me faire plaisir.
Attends, je réfléchis.
Oh, ah!
Ah non, je remonte pas dans le temps avec Google Maps.
D'autres ne savent pas. c'est vraiment super. Enfin, moi, j'adore ça. Quand on est sur Google Maps, on peut se mettre en Street View. On prend le petit bonhomme, ouais. On pose quelque part sur la carte, on est en Street View. Quand on est en Street View, il y a en bas, dans les repères de Street View, il y a la date. Si on clique sur la date, En fait, la voiture Google qui vient prendre des photos, elle passe régulièrement.
Ouais.
Et en fait, ils conservent toutes les itérations des différentes années.
T'es sérieux ?
Ah, ben c'est pas une blague.
Funaise, je connais pas.
Ah, ben ça, c'est génial. Donc, votre quartier, par exemple, exemple personnel, j'habite dans un quartier, en face de chez moi, il y avait 3 millions de petites maisons qui ont été rasées.
Ouais.
Et désormais, j'ai un magnifique immeuble en face de chez moi. Je suis ravi.
Donc, de temps en temps, je mets Google Maps et...
Et je me rappelle. Je place ça sur ma
je me rappelle.
Ben, en fait, sur Google Maps, tiens. Dans ma rue, j'ai regardé, il y a 4 dates.
Ouais.
Donc, un retour, il y a un an. La dernière fois que la voiture est passée, c'était il y a un an. Donc, en fait, quand je regarde Google Maps ma rue, j'ai un grand vide. C'est-à-dire que tout avait été rasé il y a un an. Il n'y avait rien en face de chez moi.
OK.
Ça a été un petit moment, une petite parenthèse enchantée.
Ah, OK.
Désormais, quand je regarde par la fenêtre, il y a un immeuble.
Ouais.
Et si je reviens 2 ou 3 ans avant, la fois précédente où j'étais passé à voiture, je vois les petites maisons.
OK.
Encore mieux, je reviens encore un peu avant, je vois avant que j'ai acheté et les travaux qu'on a fait chez moi, et je vois que la grande porte-fenêtre qu'on a mis avant, c'était une toute petite fenêtre, et je revois comment c'était. Mieux.
Non, mais c'est trop bien, ça.
Là où je bossais avant,
ouais.
Je sais qu'une fois, j'ai été pris en photo par la voiture Google.
Ah.
Donc, je suis en photo. Je te montrerai ça en vrai.
C'est ce à quoi je pensais.
Je suis dessus.
Oh.
Et en fait, cet immeuble-là n'existe plus. Il a été rasé.
OK.
Donc aujourd'hui, sur Google Maps, j'ai l'immeuble actuel.
Ouais.
J'ai l'immeuble avant quand je bossais. Et la toute première qu'ils ont conservée, je suis dessus. Je me vois en train de flouter, hein, mais ouais. Je me reconnais, en train de marcher vers le boulot. Quoi.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, pour les gens qui étaient sur Google Maps et qui n'y sont plus quand la voiture passe ensuite,
et bah, tu peux te retrouver.
Ah, bah, tu peux te retrouver.
Ouais.
Donc si tu as déjà croisé la voiture plusieurs fois, tu peux te retrouver plusieurs fois.
Exactement.
Et te faire des captures d'écran et un voilà. Album.
Donc voilà, c'est un petit truc, mais alors je conseille tout le monde d'aller voir ça, c'est top.
Anecdote, ouais. La dernière fois que j'ai croisé une voiture Google Maps, j'étais sur l'autoroute, j'ai attendu patiemment 9 mois, je crois que le délai de mise à jour c'est 6 à 9 mois,
ouais.
Pour voir si j'allais me voir dans mon véhicule sur l'autoroute, et la voiture a pris la photo au moment où je passe sous le pont, et elle est au-dessus. Voilà.
Dommage. Donc, juste pour les curieux, hein, je vous donne la procédure. Donc, ouais, quand on est sur ordinateur, c'est le petit bonhomme orange qu'on glisse sur Street View.
Ouais.
Quand on est sur tablette ou sur smartphone, on laisse son doigt appuyé sur la carte, ça pose une petite épingle rouge.
Mmh.
J'appuie sur cette épingle rouge, ça m'ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre, il y a plein d'infos sur ouais. Le lieu et il y a il y a Street View.
Okay.
Donc je clique dessus, ça m'ouvre la fenêtre Street View. Je pense que tout le monde connaît le fonctionnement de Street View,
ouais.
C'est-à-dire que j'avance dans les rues et c'est vraiment comme si j'allais me balader. Moi, souvent, je fais des repérages comme ça. J'ai un hôtel à Paris, je sais pas trop où c'est.
Ouais.
Je veux pas perdre de temps quand j'arrive. Je vais le repérer avant. Je reconnais les lieux directement.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Et quand je suis là, dans cette vision Street View, ça me donne l'adresse. Il y a des photos, il y a des choses comme ça. Et c'est il y a un an, par exemple. La voiture okay. Est passée, donc bien, il y a un an, c'était ça. Sur Annecy, et voir plus de dates. Et là, bah, par exemple, je suis dans la rue où on enregistre le podcast là, ouais. À l'heure actuelle. Bah, j'ai une vue en août 2020, une vue en juin 2016, une vue en août 2015, 2014, 2012, 2010, et je peux remonter jusqu'à 2008.
Ah,
la même rue, en 2008.
Bon, autant 2008, dire qu'elle a pas changé. Il y avait certainement des baklava, hein, pas loin.
Eh ben, il y avait une boucherie, charcuterie là où on se situe.
J'achetais mes merguez ici, monsieur.
Eh ben, voilà. Ben, je découvre ça. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir. On vous met les liens.
Oh, la Madeleine de Proust. Le mec m'a ramené à la boucherie où j'achetais mes merguez.
Donc, mais imaginez ça dans. Aujourd'hui, le recul qu'on a à Internet, c'est pas si vieux. Donc, on remonte pas très longtemps. Quand on voulait voir la ville telle qu'elle était, on va vous chercher les vieilles cartes postales ouais. Pour voir comment c'était avant. Mais dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, Ça veut dire qu'on aura toutes ces archives-là.
Quand on aura brûlé toutes les cartes postales.
Ouais. Bah, on pourra revenir dans le temps. Et ça devient,
ouais, ça en plus,
pédagogiquement parlant, je trouve que c'est un truc dingue.
Ouais,
dire, tiens, à quoi ça ressemblait avant? Tiens, il y avait des espaces verts, incroyable. Et pas des immeubles de 5 étages.
Et si vous êtes gentil, je vous rajouterai même dans la description un lien vers de l'écoute de 78 tours.
Oh, cool. Ah, très bien.
Ouais. Il est pas très loin de la Wayback Machine.
Bon, on mettra tout ça en description. Et amusez-vous, soyez curieux. Et n'hésitez pas à nous faire un retour par rapport à ça.
Ouais, pas de soucis.
Si vous avez des...
Question.
Pareil, des petites perles comme ça. Ah non, oui. Non, non, des signes de retour dans le temps. Je suis complètement preneur, j'adore ça.
T'es nostalgique, en fait.
Oh, tellement.
Allez, bonne journée tout le monde. Ciao.
À la prochaine.